Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux des bonnes choses en direct de l'espace Cardin et sans public, en direct de l'espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris, sur la scène d'un théâtre aujourd'hui fermé au public mais qui nous accueille le temps d'un week-end consacré aussi aux océans. Et c'est sous la mer que nous allons chercher de quoi nous nourrir ce midi, en commençant par la Madeleine de Matteo. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Vous avez plongé sous les mers.
Absolument. Madeleine du jour, suspense, mais c'est un amoureux des océans que nous avons rencontré cette semaine. Et sa Madeleine se trouve évidemment au fond des mers.
Et comme il y a des animaux marins, on le verra tout à l'heure avec cette Madeleine suspense, il y a des végétaux. Des végétaux qui attirent de plus en plus de chefs et de consommateurs et qui s'appellent kombu, nori, wakame, en français goémon, dulce, pioca, onori. On fait des bouillons avec, on les accommode avec du riz, des pâtes, des poissons, on peut même en faire des chips. Et last but not least, c'est aussi un produit très protéiné qui pourrait, à en croire certains, être un aliment d'avenir. Zoom ce midi sur un trésor culinaire méconnu, l'algue.
Entrez messieurs, veuillez vous asseoir.
Merci.
Servez ces messieurs.
Par quel miracle étonnant, votre table est-elle aussi bien garnie, capitaine ?
Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la terre.
Dans un courbouillon, on met de la carotte depuis des années. Il vaut mieux lui donner un goût d'algue. Je vois pourquoi donner un goût de carotte à un poisson.
Ça, ce n'est pas de l'agneau, je suppose. C'est de la poitrine de marsouin, farcie de bernic et cuite dans les algues.
C'est spécial, c'est très fort.
J'aime beaucoup parce que c'est frais. On sait qu'il y a plein de vitamines. Déjà, on est en bord de la mer. Ça sent l'iode, ça sent la mer. Et à partir de là, je pense qu'on le mange déjà avec envie.
Succulente, cette cuisine, n'est-ce pas, professeur ?
Oh, parfaite, oui. J'avoue que je me délecte.
C'est ce qu'on va voir ce midi. C'est si succulent que cela. En tous les cas, on a deux invités grands amateurs d'algues et qui vont nous donner, j'espère, le goût des algues. Avec nous, William Ledeuil. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue ici avec nous. Vous êtes le chef du restaurant étoilé The Kitchen Gallery qui se trouve à Paris, qui va fêter ses 20 ans en 2021 dans une ambiance sans doute un peu particulière en ce moment. J'espère pour vous que le 20e anniversaire sera un peu plus festif. Vous avez fait deux petits d'ailleurs avec The Kitchen Gallery, William Ledeuil. Vous avez fait Kitchen Gallery Bis et Kitchen Terre. Mais là, on va parler de Kitchen Mer puisque vous êtes un grand amateur des algues et vous allez nous dire pourquoi. Vous êtes l'auteur de nombreux livres de cuisine, Les Pâtes, Autrement, Bouillon et dernièrement le végétal que j'ai ici et qui comporte un certain nombre de recettes comprenant des algues aux éditions La Martinière et c'est paru cette année. Et puis avec nous, presque directement venue de la Bretagne où elle vit, Régine Keva. Bonjour.
Bonjour.
On peut dire que vous êtes la spécialiste des algues, fondatrice en tout cas de deux associations, Fou d'algues, qui fait d'ailleurs des verres en algues, hein, enfin en résidus d'algues, et vous en avez apporté plusieurs. Et puis la Concerie des croqueuses d'algues, il va falloir nous expliquer ce que c'est, qui ont toutes deux vocation à promouvoir la cuisine aux algues par des recettes, des ateliers, des conférences ou encore des sorties récoltes d'algues. Vous êtes vous aussi autrice de nombreux ouvrages. Les derniers, c'est Les super pouvoirs des algues, paru chez Larousse en 2019. Et puis un petit peu avant, il y avait Les algues gourmandes chez Flammarion. C'était en 2017. Mais je vais commencer avec vous, Régine Keva, par vous demander ce qu'est une algue. Est-ce que c'est basiquement, banalement, une salade de la mer ?
Non, on peut pas dire qu'une algue soit une salade de la mer. Ce serait réducteur dans l'assiette, bien sûr. Une algue, c'est un végétal marin, c'est-à-dire, contrairement aux plantes, ça n'a ni racines, ni sève, ni fleurs. Ça a un crampon, un stipe et une lame. Les végétaux terrestres se nourrissent, comme la salicorne par exemple, on croit souvent que la salicorne c'est une algue, non c'est une plante. La salicorne va se nourrir avec les racines, elle va se nourrir des nutriments qui sont dans la terre, dans le sol, alors que l'algue, elle, va se nourrir grâce à sa lame, elle va se nourrir dans l'eau de mer. Donc quand on mange des algues, on mange de l'eau de mer et du soleil, donc c'est une définition que j'aime bien, parce que les algues font aussi la chlorophylle. Donc je ne sais pas si j'ai répondu directement à la question, mais j'ai donné ma définition.
Parce que ça n'est pas, mais aussi parce que c'est, puisque effectivement oui. La salicorne n'est pas une algue.
C'est ça.
Mais en revanche, les algues sont de la mer, de l'iode et du soleil. C'est pour cette raison que vous aimez tant les algues, William Ledeuil, dans votre cuisine. C'est de la mer et du soleil.
C'est un petit peu ça, c'est la mer et le soleil. Mais en même temps, c'est aussi du bien-être. C'est-à-dire que oui. L'algue va être, ça va être un assaisonnement supplémentaire. Vous savez, elle va correspondre un peu à cette cinquième saveur qu'on appelle l'umami. C'est ni salé, ni sucré.
Difficilement définissable.
Difficilement définissable, mais c'est ce qui veut dire succulent, goûteux et l'algue va apporter cette dernière saveur.
Succulent, goûteux, je vous dis quelque chose de très personnel. Quand on parle des algues, c'est pas nécessairement ce qui me vient en premier à l'esprit. Peut-être la mer, peut-être l'iode, mais succulent, goûteux, pas nécessairement. J'ai le sentiment que les algues, et vous allez nous dire l'un et l'autre, hein, la variété, la richesse des goûts, des saveurs, parce qu'on les imagine pas quand on les connaît pas, que c'est plutôt fade, une algue.
Ah non, c'est tout sauf fade. Non.
C'est exprès que je vous...
Non, ça c'est de la provocation, ça.
Ah bah oui, c'est pas drôle sinon.
Non, en fait, quand on parle de la saveur umami et de la salade d'algues, ou en tout cas de la cuisine aux algues, on parle de deux choses différentes. La saveur umami, on va l'avoir, par exemple, dans les kombus. On prend un morceau de kombu, donc une laminaire, qu'on va mettre dans un couscous, par exemple, ou une sauce qui va mijoter, et ça va libérer le glutamate monosodique naturel. Donc ça va donner ce fameux goût. Alors un jour, moi, j'ai été en voiture entre Guingamp et Rennes, et là, j'ai compris ce que c'était le glutamate monosodique, la saveur.
Comme ça, en voiture, entre Guingamp et Rennes,
parce que je venais de...
le glutamate.
Oui, cette saveur umami, j'ai compris, parce qu'en fait, je venais de manger de la sauce tomate que j'avais laissé mijoter longtemps avec ces morceaux de kombu. Et tout à coup, je l'avais en bouche, mais comme du velouté, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est bon! Et je me suis dit, voilà, c'est ça la saveur umami, c'est-à-dire qu'elle est veloutée, ronde en bouche, et pendant 2 heures au moins, on se dit, oh, mais c'était bon! Voilà, donc ça, c'est la saveur umami. Mais maintenant, quand on fait de la cuisine aux algues, et je pense que William sera d'accord avec moi, on va accommoder les algues, on va les cuisiner, et il va y avoir cette saveur iodée, qui peut être forte, hein. Donc il faut mettre peu d'algues, on va la cuisiner, et d'abord c'est un exhausteur de goût, hein. Donc on va avoir cette saveur. Quand on fait de la crème pâtissière sans algues et avec algues, on a deux crèmes pâtissières qui n'ont rien à voir. Quand on a mangé de la crème pâtissière avec, par exemple, de la honori, une algue verte, on peut plus manger de la crème pâtissière nature parce qu'on se dit, mais elle a aucun goût, elle est fade.
C'est ça, c'est un exhausteur de goût avant tout, William Ledeuil.
C'est un exhausteur de goût, c'est pour ça qu'on s'en sert vraiment, nous, comme assaisonnement. Donc c'est-à-dire que ça va rentrer dans plein de compositions, on va pouvoir en faire chaque bouillon. Si je fais par exemple une soupe de poisson basique, je vais intégrer du kombu dans la recette, un bouillon de crustacés de la même manière. Mettez un bouillon de champignons, on met des algues, le kombu, qui est vraiment cette algue qui apporte ce parfum. Vous faites un bouillon de légumes de la même manière, on va pouvoir en faire un beurre, vous allez pouvoir faire des pickles. Dans votre jus de pickles, vous allez ajouter un morceau d'algues. On pourra faire une confiture. Moi, je m'amuse à faire des confitures d'algues. Là, on fait un mélange. Et c'est l'assaisonnement. C'est ce qui va donner le relief à un produit. Sans le dénaturer, ça va souligner le produit.
Et toutes ne sont pas les mêmes, hein. Régine Keva, donc, on l'entend, puisque c'est tantôt un nori. Alors, le nori, c'est l'algue la plus consommée au monde. C'est celle qui entoure les makis dans la cuisine japonaise et dans la cuisine coréenne où les algues sont extrêmement utilisées. Il y a le nori, il y a le kombu, vous en avez cité déjà plusieurs. En Bretagne, on en trouve 700 à 800 variétés. Donc, ça suppose de bien les connaître pour savoir ensuite, je suppose, comme n'importe quoi dans la cuisine, de bien les utiliser.
Oui, souvent, j'ai l'habitude de dire que quand on découvre les algues, c'est comme si on découvrait carottes, choux-fleurs, aubergines, salades, etc. Donc, on va les cuisiner différemment, chacune. Par exemple, la nori va très bien s'accorder avec des protéines de lait parce que ça va apporter un goût qui va donner un goût pratiquement d'anchois. Ce qui n'est pas du tout vrai avec l'algue verte. L'algue verte, on peut pas la cuisiner de cette façon-là. Le kombu, on va le cuisiner très bien, par exemple, avec du gingembre ou du sésame. Les goûts vont très bien s'accommoder, mais ça va pas être le cas de la dulse. La dulse va très bien aller dans du sucré, avec, par exemple, de l'ananas ou du rhum. Donc, on a un océan de possibilités.
Tel qu'elle le dire. Et justement, en Bretagne, où vous êtes, vous, ramasseuse d'algues, et où vous allez vous organiser donc des ateliers de récolte d'algues. Non, c'est pas ça?
Non, pas exactement.
Alors, vous allez nous raconter.
Alors, premièrement, on ramasse pas les algues. Je suis désolée. C'est la langue française qui va nous faire dire qu'on va les cueillir et pas les ramasser.
La cueillette d'algues.
On fait de la cueillette d'algues. C'est important parce que les algues doivent être cueillies proprement, c'est-à-dire, elles sont fixées sur le rocher. premièrement. Donc on est sûr qu'elles ne sont pas dérivantes. Les algues dérivantes, elles sont bonnes pour le jardin parce que les algues fixent les métaux lourds. Donc si elles sont dérivantes, c'est pas pour les manger ni pour les cosmétiques. On les laisse au jardin, c'est parfait. Et ensuite, on va vérifier la qualité de l'eau où on va cueillir les algues. Alors moi, je suis juste une pédagogue et juste quelqu'un qui écrit des livres. C'est pas mon métier, c'est pas ma filière. Mais je me suis passionnée pour les algues parce que c'est passionnant.
Et donc, quand vous emmenez des petits groupes avec vous en tant que pédagogue pour aller cueillir des algues, vous commencez par quoi ? Par reconnaître les types d'algues ? Il y en a des brunes, il y en a des rouges, il y en a des vertes. Est-ce que toutes, par exemple, sont comestibles ?
Alors, toutes les algues sont comestibles. Il y en a qui ne sont pas bonnes au goût. Il y en a une que j'ai nommée la recracharia. Non, elle, c'est pas du tout son nom, elle s'appelle Bifurcaria, mais bon, vraiment, elle n'est pas bonne. Donc, après, ça dépend de nos organismes. Il y a des organismes qui vont accepter les algues, et d'autres, on n'est pas habitué aux algues, donc on va les goûter une par une. Et donc, il y a des gens qui vont dire, moi, par exemple, celle-là, je l'aime pas, la petite Laurentia, qui est un régal. On fait un beurre d'algue avec cette algue qui s'appelle le poivre de la mer. C'est remarquable, mais il y a des gens qui disent « Ah non, elle est trop forte pour moi ». Donc, voilà. Mais on peut tout goûter sans risquer un empoisonnement, contrairement aux champignons, à condition de les cueillir et non pas de les ramasser, à condition de vérifier la qualité de l'eau et à condition de respecter la réglementation.
En tant que chef, William Ledeuil, vous avez déjà été dans des petits groupes comme ceux qu'organise Régine Keva sur le littoral breton pour aller cueillir des algues. Comment avez-vous appris, vous, à reconnaître une bonne algue d'une mauvaise et à les utiliser dans votre cuisine ?
Alors, je n'ai jamais cueilli les algues, mais je fais confiance aux cueilleurs professionnels d'algues.
Vous travaillez avec des cueilleurs professionnels.
Oui, exactement. Une société qui s'appelle Algo Plus, que vous connaissez, que vous connaissez très bien, voilà, qui ont vraiment des qualités d'algues assez extraordinaires. Et évidemment, je leur fais confiance. Après,
oui, mais après, vous avez dû goûter pour justement choisir entre
Je goûte, et après, l'algue, si vous voulez, on va l'utiliser en fonction d'un produit. C'est-à-dire qu'on va pas faire la même utilisation de chaque algue. On parlait par exemple le kombu, c'est vrai que ça va être quelque chose qu'on va intégrer dans un bouillon, dans un liquide.
Alors, à quoi ça ressemble le kombu ? Parce que je regardais votre livre précédent qui s'appelait Les algues gourmandes, je crois, Régine Keva, et vous donnez des fiches d'identité de chaque algue, et on distingue le kombu royal du kombu breton, par exemple. Oui. Le kombu royal, c'est une espèce de grandes algues très épaisses, marron foncé. Avec lesquels les enfants font des jeux en s'entourant comme pardon, j'ai tapé le micro, comme un grand foulard, c'est ça, ou faire des cheveux, c'est ça.
Les enfants l'appellent le crocodile ou le dragon, parce que quand il est dans l'eau, qu'il flotte, eh bien on se dit mais c'est quoi, c'est un animal étrange. En fait, c'est juste un végétal.
Et ça se mange.
Et ça se mange, oui, mais tout se mange. Après, faut. Alors,
donc c'est ça, le kombu. Un peu plus ferme comme algue.
C'est épais, oui. Quand même, le kombu.
Ça a une structure de cuir. Ouais. Donc on peut pas la manger crue.
Alors comment la cuisinez-vous ? Parce que je vous ai interrompu, William Ledeuil, vous étiez en train de parler du kombu.
Je vous donnais par exemple deux façons de l'utiliser totalement différentes. Par exemple, pour utiliser un poisson cru, un poisson de ligne, vous marinez la chair de poisson avec un sel de mer et citronnelle. Et ensuite, vous le rincez et vous prenez un morceau d'algue kombu et vous posez votre poisson, votre chair de poisson sur cette algue, vous l'enveloppez dans un papier film et vous laissez à peu près 4 heures au froid. Et ensuite, vous verrez que la texture du poisson et le goût du poisson, je vais voir, l'algue va donner un complément, un assaisonnement supplémentaire. Sinon, on va pouvoir l'utiliser dans un bouillon, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là.
Le postille spécialiste des bouillons.
Oui. Je trouve que ça, par exemple, ça fonctionne très bien, c'est amusant, le terre et mer, ça fonctionne formidablement bien avec les champignons. Ouais. Vous faites un bouillon de cèpes et champignons de Paris avec l'algue kombu, donc l'algue, vous l'utilisez telle quelle, elle va se réhydrater, elle va cuire, et vous allez avoir ce parfum.
Mathéo, vous y connaissez en algues, vous approuvez, vous dodelinez de la tête.
Au bouillon japonais dans lequel il y a souvent des algues, au bouillon coréen dans lequel il y a souvent des algues, et voilà, la salive monte en bouche pendant que vous parlez d'algues et de kombu.
Bon, avalez votre salive, Mathéo Caranta, parce que ça va être à vous, ça va être l'heure de la Madeleine. Il est midi 15 sur France Culture, nous sommes toujours en direct et sans public de l'espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris, et en direct, bien entendu, ça veut dire sur France Culture. « Le suspense est grand puisque vous avez laissé la surprise et le mystère de cette madeleine.
Mais oui, j'aime bien faire des mystères, moi. Mais en fait, je vais tout vous dire, tout vous révéler. J'ai rencontré Éric Orsenna cette semaine, l'écrivain académicien, auteur de plusieurs ouvrages sur la géopolitique des eaux et des océans, qui vient de signer une tribune pour défendre la culture dans le JDD ce matin, sur le ton de « cher Emmanuel, monsieur le président ». Mais il ne défend pas que la culture, je le disais, il défend la nature et les océans. On atteste ses explorations dans les deux pôles avec la navigatrice Isabelle Autissier, marin breton s'il en est. Éric Orsenna, eh bien sa madeleine ne pouvait être qu'aquatique, mais attention, évidemment, ce n'est pas une algue.
Ma madeleine n'est pas un insecte. Ma madeleine ne vit pas sur Terre. Ma madeleine arrive en gros au mois de juin. Ma madeleine, c'est une araignée. Mais c'est une araignée de mer. Parce qu'après avoir goûté tous les crustacés possibles et imaginables, ma préférée, c'est l'araignée de mer. La bouchée de l'araignée de mer, c'est d'abord s'inviter dans un compartiment de son corps lui-même. C'est à la fois un geste et une saveur. C'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est conquis. Et c'est quelque chose qui est conquis d'une certaine manière par effraction. C'est un coffre au trésor. Et on ouvre une petite cavité dans laquelle il y a une chair qui est d'une extraordinaire fraîcheur, qui est à la fois avec des sortes de membranes, mais très légères, ce qui fait qu'il y a une sorte de vraie texture. Et puis l'ensemble, il y a une continuité, mais on n'en a jamais assez. Alors, l'araignée de mer me renvoie à l'enfance parce que d'abord, c'était extraordinairement difficile à manger. Donc, c'était l'inverse du jambon et de la purée. C'est-à-dire, il fallait faire un petit effort. Et on me disait, et moi, et mon père, et ma mère, surtout mon père, me disait, regarde, tu verras, le plaisir vient au bout de l'effort. Donc, c'est l'enfance, mais c'est aussi une sorte de leçon d'enfance. C'est-à-dire que la nourriture se gagne. La nourriture n'est pas une consommation, la nourriture est une exploration. Et comme c'est une exploration, c'est aussi une façon de dire merci. Alors on peut faire des gratins, alors on peut faire toutes sortes de... On peut, drame, rajouter cette sorte de paresse molle qui s'appelle la mayonnaise, mais non, pas du tout. Il faut juste un filet de citron, un petit peu d'huile d'olive, pour changer un peu la couleur, qu'il y ait un dialogue entre le très légèrement vert, un peu jaune de l'huile d'olive, avec l'araignée, et on a le sentiment de l'araignée, parce que comme j'en ai pêché beaucoup, je les vois qui sont sous sur le fond de la mer et qui marchent comme ça lentement, comme une sorte de tapis, donc on a l'impression que c'est un tapis, non pas volant, mais qu'on peut manger. Donc manger un tapis volant, c'est quand même mon rêve.
Merci beaucoup Mathéo pour cette madeleine qui nous emmène non seulement au fond des mers mais qui donc rejoint le ciel, ce tapis volant, on le retrouve avec le combo puisque c'est quand même très très grand, très très long, hein, William Ledeuil, le combo puisque nous parlons des algues ce midi dans Les Bonnes Choses en se demandant, mais manifestement nos deux invités y ont déjà répondu, si c'est bon ou si c'est juste symbole de la cuisine du bien-être, puisque faut aussi aborder cette question-là, Régine Keva, la cuisine du bien-être avec les algues. Il se trouve que si les algues sont un peu plus à la mode aujourd'hui qu'autrefois, c'est parce qu'elles correspondent à notre moment où on exige du bien-être. Alors, en quoi l'algue est-il symbole de santé et de bien-être ?
Les algues, c'est surtout des protéines végétales de bonne qualité avec les acides aminés essentiels. Donc, par exemple, dans les algues rouges, on a à peu près 40 à 50% de protéines, donc c'est énorme. Ensuite, j'aime bien parler du magnésium. Le magnésium, vous le savez, c'est un minéral qui est responsable de 300 métabolismes dans le corps. Et c'est un minéral très important parce qu'il nous permet cette sensation de bien-être, de détente. Donc, manger des algues, c'est manger quelque chose qui va nous détendre, qui va nous nourrir. On a évidemment du calcium, du fer, du magnésium, des protéines, des vitamines B12, etc. On a tous les groupes de vitamines présents dans les algues. Donc on a une sorte de bombe nutritionnelle importante qui va en plus nous apaiser. Voilà, d'ailleurs, kombu, ça veut dire délicieux, je crois, en japonais.
C'est ça. On y est, succulent, délicieux. Voilà. Bon, on va regarder les algues et goûter les algues avec un autre regard et surtout un autre goût après cette émission. D'ailleurs, Régine Keva, pendant la madeleine d'Éric Orsenna, vous avez installé sur la petite table du bistrot à côté de vous des tartares d'algues avec du pain. que vous nous avez apporté?
C'est ça. Alors, le premier, celui qui est le plus proche, là, c'est un tartare fait avec un mélange de trois algues que j'ai mis de manière sèche un peu plus loin. C'est le degré zéro de la cuisine aux algues, donc c'est facile. Hein, c'est des paillettes qu'on achète, qu'on va réhydrater avec du citron, de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien mettre de l'ail. Et là, j'ai mis du radis noir, des carottes du jardin, donc coupées en petits morceaux, et de la pomme, pour donner un petit goût légèrement sucré, mais avec une dominante de salé quand même. Donc c'est très simple à faire. Et puis au milieu, on a du haricot de mer que je suis allée cueillir sur l'île Calotte. Oui, c'est une algue très belle et très longue. J'ai mis du temps avant de comprendre comment la cuisiner, parce qu'il faut l'apprivoiser, en fait. Mais le plus simple, c'est de la mettre, d'en faire des pickles pratiquement, donc moitié vinaigre, moitié eau, portée à ébullition. On met dans un bocal. Et puis on laisse mariner tranquillement 2 mois, 3 mois, et puis ensuite on va servir en sucré, en salé, mais on peut aussi s'en servir en sucré en les faisant confire. Donc il y a plein de choses à faire.
Chaque algue a un petit peu sa spécificité, hein. C'est-à-dire qu'on va,
c'est ça.
Il y a des algues qu'on va pouvoir utiliser en salade tout simplement, juste assaisonner. On va jouer aussi sur les assaisonnements. En même temps, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un exhausteur de goût naturel. Donc c'est pour ça que moi ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'on est sur cette notion de cuisine bien-être, exhausteur de goût naturel. Donc on va éliminer beaucoup de choses qui sont comme le sel, comme le gras. Et en plus ça a du goût, ça a du parfum.
Alors c'est rigolo parce que par exemple dans notre association, les croqueuses d'algues dont on parlait, on a fondé l'association pour promouvoir les algues, on se rencontre et puis on se fait goûter nos plats. Et on s'est rendu compte au fil des années que plus le temps passait, mieux on cuisinait. Parce qu'en fait, l'algue rend exigeant. On ne peut pas, si on fait une fois, un jour, un plat qu'on rate aux algues, bon ben nos convives, nos invités vont être dégoûtés pendant 2 ans, donc on évite, si on veut encore avoir des amis. Hein, voilà. Mais on a besoin un peu d'être initié quand même. Hein, c'est pratiquement une des seules cuisines qui a besoin d'initiation. C'est aussi pour ça que les gens s'inscrivent aux sorties, aux ateliers cuisine. Il faut apprendre à cuisiner les algues. Hein. Mais surtout, plus on se met aux algues, plus on affine nous-mêmes notre façon de cuisiner.
William Ledeuil, en tant que chef cuisinier, vous êtes d'accord avec ce que dit Régine Keva, c'est l'algue, c'est particulièrement exigeant et il faut être initié?
Ah, il faut comprendre l'algue. C'est vrai que si on vous amène un magnifique plateau d'algues, c'est beau.
Je confirme, je ne saurais pas quoi en faire.
Exactement. Donc il faut commencer à comprendre les particularités, ce que l'on peut faire avec chaque algue, et ensuite on peut décider qu'est-ce qu'on va en faire. On peut aussi, alors elles peuvent être mangées, dégustées. Moi je vais m'en servir par exemple pour des choses toutes bêtes, une pomme de terre qu'on va cuire une pomme de terre en robe des champs. Par exemple, moi, je vais faire une croûte de sel aux algues et je vais cuire mes pommes de terre en croûte de sel aux algues.
Et ça donne effectivement un parfum différent à la pomme de terre.
Même une papillote. Oui, vous pouvez faire une papillote des légumes. Vous mettez dans vos légumes l'algue, vous fermez la papillote et vous allez avoir un parfum quand vous allez sortir, ouvrir la papillote. C'est extraordinaire.
Vous les livrez à des urbains qui sont loin de la mer, les algues que vous allez cueillir, Régine Keva? Mais aussi l'accessibilité.
Non, moi je les cueille que pour moi.
Hein, je plaisante. Ah oui, voilà, d'accord.
Que pour moi. Maintenant, après, si je fais des ateliers publics, ces algues-là, je les ai achetées, par exemple. Hein. On fait tourner aussi une filière économique. Hein. C'est aussi...
Aujourd'hui, on peut quand même facilement se les procurer. Hein, avec le développement du click...
and collect.
On peut quand même se procurer. Oui.
Reste frais un moment, c'est comme du poisson, il faut le manger vite. Comment ça se passe, l'algue? C'est comme un végétal.
Elles peuvent être conservées, nous.
On les
reçoit, elles sont conservées au sel. Oui. Donc en fait, elles se gardent.
Les DLC sont très longues. Oui. On trouve tout sur Internet, il n'y a plus aucun problème d'approvisionnement aujourd'hui. Peut-être un problème de quantité, mais ça c'est une autre chose. Et pour en revenir à des recettes toutes simples, effectivement, la laminaire dont on parlait tout à l'heure, le kombu frisé, là. Quand on a la chance d'aller cueillir des algues, on va couper le kombu. Et puis on va envelopper des pommes de terre qu'on va faire au barbecue, comme ça, tout simplement. On va les envelopper plusieurs fois sans papier d'alu. Hein. C'est l'algue qui va prendre la chaleur, qui va la communiquer, elle va communiquer sa saveur. Et la pomme de terre aura un goût vraiment délicieux, très succulent, quoi. C'est toujours le mot qui revient. On peut faire la même chose avec par exemple, un maquereau. On n'a même pas besoin d'assaisonner le maquereau. On va le cuire enveloppé directement dans l'algue Sur le barbecue, évidemment, à ce moment-là, on ne va pas manger l'algue parce qu'elle a pris des fumées toxiques. Mais le poisson, à ce moment-là, a une saveur marine absolument délicieuse.
Même une cuisson vapeur. Moi, je sais que, par exemple, les algues, je choisis, je dirais, le temps de dessalage que je vais... Donc, je les garde encore, je ne les dessale pas complètement. Je cuisais encore tout petit peu. Et là, vous cuissez un poisson à la vapeur sur le lit d'algues. Que vous pouvez combiner.
C'est ça.
Vous combinez différentes algues. Ouais. Et là, vous avez des saveurs particulières. Et forcément, vous renforcez le goût de la mer, le goût d'iode sur le poisson.
Bon, je vous pose la question à tous les deux parce que vous êtes quand même des initiés et des spécialistes et on l'entend, Régine Keva, William Ledeuil, quand on n'y connaît rien, par quelle algue faut-il commencer? Il y en a peut-être des plus faciles que d'autres à cuisiner, William Ledeuil.
Écoute, il y en a pas non plus beaucoup de variétés, je dirais.
Si, il y a 700 à 800 variétés sur les Côtes-Bretonnes.
Oui, en vente, il y en a 10 seulement. Dans le livre, vous verrez, il y en a seulement 10. Voilà.
Les principales sont les 10. Le wakame, la dulce, le kombu qui va servir, la laitue de mer, le haricot de mer. Je dirais, ce sont les principales algues qu'on peut trouver assez facilement.
Vous faites aussi dans le sucré avec les algues, vous, William Ledeuil?
Non, alors je suis pas encore lancé dans le sucré. Je vais dire autant, je suis très très ouvert sur le salé, sur le sucré, je suis peut-être un petit peu plus classique encore, mais ça viendra sans doute dans un deuxième temps.
Est-ce que vous avez des plats festifs aux algues, puisque malgré tout et malgré cette ambiance morose, on s'approche des banquets, des fêtes, des agapes de fin d'année? Est-ce qu'on a des huîtres aux algues? Par exemple,
on pourrait s'amuser effectivement avec des huîtres.
Sans que ce soit décoratif, simplement.
Non, mais très souvent, effectivement, l'algue sert de support et de présentation aux huîtres, qu'on ne met jamais sur la glace. Moi, l'huître, l'algue, je vais plutôt la mettre dans l'huître. Donc, on va s'amuser, on va prendre un petit peu de dulce, de wakame. Vous l'assaisonnez avec un petit peu de vinaigre balsamique blanc, un petit peu d'huile d'olive, d'huile de sésame. Si vous avez un citron... On peut se procurer un yuzu, vous râpez un petit jus de yuzu et un yuzu râpé, un tout petit peu de gingembre frais haché râpé. Vous ouvrez votre huître, vous récupérez le premier jus. Ce premier jus, vous le filtrez. Vous allez assaisonner vos algues avec ce jus d'huître. Et puis ensuite, vous allez pouvoir disposer cette salade d'algues sur les huîtres. Elles sont prêtes à déguster.
Oui, parce qu'en plus, vous êtes très attentif à l'esthétique, au visuel, aux couleurs. Je me souviens d'un livre que vous aviez fait, William Ledeuil, sur les couleurs. Et donc, non seulement les algues sont succulentes, je reprends votre terme, Régine Keva, mais en plus, elles sont belles. Elles sont aussi esthétiques. Elles sont aussi décoratives, William Ledeuil. Pour vous, c'est aussi un plaisir des yeux.
Alors, pas décoratives, elles sont belles, mais pas décoratives. Je veux vraiment que l'algue soit belle, mais en même temps, je dirais, elle soit utilisée en tant qu'aliment et elle ait du goût. C'est vrai qu'une algue, c'est beau. En plus, on les voit, elles sont souvent effectivement, mais quand on les voit dans leur élément naturel, la beauté d'une algue qui est dans l'eau, c'est magnifique.
Ah oui, ça, Régine Keva, effectivement, n'a pas l'air de vous contredire. On peut faire des cakes aux algues, on peut faire des pâtes aux algues, on peut faire du riz aux algues, tout un tas de choses. Bien sûr, on se reporte à vos livres nombreux, les bouillons, les pâtes, le végétal, William Ledeuil. On trouve un certain nombre de recettes, dont des recettes avec les algues dont vous nous avez parlé dans ces livres. Et puis, Régine Keva, les algues gourmandes. Et puis, ce livre, les super pouvoirs des algues, santé, cuisine, beauté, tout est là. Dans votre livre à vous. Merci beaucoup d'être venu ce midi dans Les Bonnes Choses de France Culture. Merci encore. Bon retour dans votre Bretagne où vous vivez. Merci. Bon retour chez vous à Paris.
Merci.
Vous, William Ledeuil. Un grand merci aux équipes techniques, Andreas Jaffré, Olivia Branger, Christophe Michou et Nicolas Estorge. Un grand merci aussi à toute l'équipe des Bonnes Choses, Mathéo Caranta, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve et notre réalisateur Jean-Christophe Francis. Tout le monde vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps, ici même à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville, par Marc Weissmann.